Respirer. Apprendre.
Je serai à TER, numéro.
S'évader. Découvrir. H2O, en balade.
Allez Mathieu, pour bien finir la semaine, on va dehors, hein. On va dans le jardin, si vous voulez bien.
Avec grand plaisir.
On va découvrir le jardin, mais sous l'angle de la terre. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir pourquoi dans quelques instants, avec l'accueil de notre invité du jour à 1h20 des Rendez-vous Nature, 1h10, le cinquième et dernier épisode de notre reportage Le Silence des Oiseaux, reportage réalisé en compagnie de Jean-Christophe Gigot de la Ligue pour Protection des Oiseaux, avec qui on s'intéresse à l'évolution des effectifs d'oiseaux dans la région Auvergne. À midi et midi et demi, ce sera l'info.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne. H2O.
Pour bien finir la semaine et pour nous oxygéner l'esprit, Christophe, nous allons effectuer une balade dans nos jardins.
Et nous allons pousser les portes d'un jardin pédagogique, un jardin expérimental, un jardin vivant où la biodiversité s'exprime librement.
Un lieu dans lequel un passionné observe les équilibres naturels, les interactions, la vie des sols et le cycle des saisons.
Ce passionné de nature fut le premier permanent de la Ligue pour protection des oiseaux en Haute-Loire en 1992. Il a travaillé également sur les différents sites de migration des oiseaux de la région pour l'observation des oiseaux migrateurs.
Et 3 ans plus tard, il intègre l'association Espace et Recherche, l'une des premières structures d'éducation à l'environnement et au développement durable, structure qui deviendra en 2005 le CPIE Clermont-Dôme. Nous en parlons d'ailleurs hier en compagnie de notre invité Thierry Dalbavy.
Effectivement, en 2010, notre invité décide de créer sa propre activité autour du jardinage au naturel et du compostage.
Il intervient auprès de nombreuses structures, institutions et associations pour des formations, des études, des conseils autour du jardinage au naturel.
Et en 2015, en plus de son activité de formation, il lance la création de la société Alter Idée, qui fabrique en Auvergne et avec des matériaux locaux des composteurs de grande capacité en bois non traité.
Nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Fels, jardinier conseil et maître composteur, l'un des premiers maîtres composteurs de la région Auvergne.
H2O. Jusqu'à 13h, redécouvrez l'Auvergne avec H2O et son invité.
Pierre Fels, bonjour.
Et bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir, Pierre, dans cette émission H2O en balade. Hier, on avait quelqu'un que vous connaissez bien, Thierry Dalbavy, avec qui vous avez œuvré pendant quelques années à Espace et Recherche et ensuite au CPIE Clermont-Dôme. On a eu l'occasion, et on a fréquemment l'occasion avec nos invités, de parler un peu de leur parcours, de ce qui les a amenés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Je suppose que vous n'êtes pas une génération spontanée de naturalistes, d'amoureux de la nature, de la terre. C'est venu progressivement. Quel a été d'ailleurs l'élément qui a déclenché cette passion-là?
Bonjour, merci pour votre invitation déjà. L'élément déclencheur, je crois que c'est tout simplement un contact précoce dans le milieu naturel où j'ai trouvé du plaisir à simplement me sentir bien, observer les oiseaux, m'y balader.
Précoce, c'est quel âge?
Je me souviens aux alentours de 15-16 ans être déjà passionné par les oiseaux. C'était une passion d'adolescent, voilà.
Et progressivement, de cette passion est née la volonté d'en faire son métier.
Voilà, c'était assez évident tout de suite, donc je me suis tout de suite orienté vers cette destination-là, et puis j'en suis pas sorti, même si au début j'étais orienté plus sur les questions du naturalisme, hein, l'observation, la reconnaissance. C'est pour ça que j'ai participé à la LPO, en étant permanent à un moment donné à la LPO en Haute-Loire. Mais rapidement, ça a aussi après évolué vers les questions du jardinage. Mais puisque le jardinage est un lieu extraordinaire pour être au contact de la terre et être avec tout ce qui vit autour de nous, puisque là, je parle bien du jardin, on parle bien du jardin naturel, du jardin qui nous permet d'être en lien avec les éléments et la faune et la flore.
Jardinier conseil, moi c'est un terme qui me plaît bien, c'est-à-dire vous êtes le petit ami qui va s'occuper du jardin et qui va nous apprendre aussi peut-être à mieux s'occuper de notre jardin.
Voilà, c'est ça. Moi, mon métier, c'est d'arriver à être le plus possible dans la transmission des pratiques qui vont faire qu'on va se passer de polluer ou de tuer notre sol, de polluer l'eau. Et donc, mon souci, c'est d'aller vers des personnes qui n'ont pas forcément ces préoccupations-là et de montrer ce qu'ils sont capables de faire, sans forcément être dans le prosélytisme, mais en tout cas de montrer qu'on peut aujourd'hui, et non seulement, enfin pas seulement parce qu'on n'a plus le choix, puisque la réglementation l'exige ou va l'exiger, mais aussi par respect pour la terre, on va aller de plus en plus, et on va de plus en plus, vers des jardinages exempts de pesticides.
Et vous touchez tous les publics.
Oui, alors moi je travaille surtout avec les publics adultes, les jardiniers, mais aussi, comme je fais de la formation auprès des collectivités, je travaille avec les agents des services techniques, des collectivités, des villes, pour construire avec eux d'autres formes de gestion, alors ce qu'on appelle la gestion de la matière organique, c'est-à-dire toutes ces feuilles mortes, ces tontes, ces branches, qu'est-ce qu'on peut en faire pour éviter qu'elles encombrent les déchetteries, qu'est-ce qu'on peut en faire pour qu'elles soient transportées sur les routes ou qu'elles ne soient brûlées. On peut les valoriser sur place et c'est une partie de mon activité.
Et on verra comment d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission, dans quelques instants vous dévoilerez l'objet mystère ou secret ou surprise que vous avez apporté avec vous, ce sera juste après ceci.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne. H2O. France Bleu.
Après avoir déposé les enfants à l'école, passez-nous un coup de fil sur vos questions de vie quotidienne.
Vous augmentez les droits du conjoint dans la succession.
Nos invités sont là pour vous aider à démêler les bons plans des fausses bonnes idées.
En deuxième partie, nous passons en cuisine. 9h, 11h, c'est la vie en bleu.
Alors moi j'utilise un mélange de 5B.
Avec Nathalie Combre
et Lucie Agostinho.
Émission à retrouver sur francebleu.fr.
Il fait un peu frais, non ?
Besoin d'une prime exceptionnelle pour vos travaux de rénovation ? Triba est là pour ça.
Vraiment ?
Eh oui, du 8 janvier au 11 février, Triba vous offre jusqu'à 25% de remise en plus du crédit d'impôt sur les fenêtres, les portes et les volets.
Oh, merci !
Triba est là pour moi.
Conditions détaillées et points de vente participants sur triba.com.
L'Auvergne.
L'Auvergne, c'est...
le festival de théâtre d'Aurillac.
L'Auvergne.
La moutarde de Charron.
Et France Bleu, pays d'Auvergne.
Flâner. H2O vous emmène en balade.
Pierre Feltz est jardinier conseil, il est aussi maître composteur, on expliquera dans quelques instants ce qu'est un maître composteur. Il est notre invité dans H2O en balade jusqu'à midi et demi. Pierre, comme à chacun des invités qui se déplacent jusqu'à nous, on vous a demandé d'apporter avec vous un objet, quelque chose qui a un sens dans votre existence. Qu'est-ce que vous avez apporté avec vous ?
Alors moi je suis jardinier effectivement, donc j'ai amené un petit catalogue de semences, un catalogue de graines. Je suis jardinier et j'aime aussi donc du coup les goûts, les couleurs et la diversité au jardin, pas simplement la diversité dans les espèces mais aussi dans les variétés. Aujourd'hui on trouve de plus en plus dans de bonnes jardineries, comme on peut en avoir chez nous, des semences de différents types, de différentes origines, des vieilles variétés très résistantes qui ont du goût, des variétés de légumes je pense bien sûr, mais là je vous ai amené un catalogue, donc le catalogue de Germinance qui produit des semences biologiques et biodynamiques qui propose une grande diversité de semences potagères, florales pour tous les goûts, toutes les couleurs et des semences de qualité.
Voilà. Ils sont installés où Germinance ?
Alors ça c'est une bonne question, en tout cas ils ne sont pas en Auvergne. Germinance c'est un groupement de producteurs, je crois qu'ils sont du côté dans l'ouest de la France.
Voilà. Ils font un travail à peu près équivalent à celui de Coco Pelli.
Exactement. Alors, j'ai amené celui de Germinance parce que j'aime beaucoup leur diversité, mais il y a d'autres semenciers, donc Coco Pelli qui est très connu, le Biogerme aussi est un très bon producteur de semences, la ferme de Sainte-Martre. Ouais. Voilà, je ne peux pas dire avec tous les catalogues, j'ai choisi celui-ci parce qu'en plus c'est un bel objet, il a des belles
illustrations.
Belles illustrations, ouais. Et surtout, je leur ai dit, une grande diversité de semences très fertiles.
Et alors, ce qu'il faut savoir, Mathieu, c'est que c'est important justement de préserver ces semences-là parce qu'elles sont très souvent privatisées par des grands groupes semenciers. On n'en citera pas, on n'a pas envie de leur faire de pub parce qu'ils trustent ces grands groupes, ce capital qui est commun à l'humanité et qui ne devrait pas être privatisé, Pierre.
Oui, bien sûr, la semence, c'est pas moi qui l'ai dit, il y en a d'autres qui l'ont dit, mais quand on détient la semence, on détient beaucoup de choses sur cette planète. C'est de là que partent la nourriture des animaux, des hommes, les paysans, les jardiniers depuis très longtemps essayent de reproduire leurs semences, de les adapter à leur terroir, et c'est ce qui permet d'avoir une diversité justement dans les variétés, dans les espèces qu'on cultive. Et pouvoir trouver des semences non hybrides, c'est-à-dire que l'on peut reproduire, que l'on peut adapter à son lieu, c'est aussi un des grands plaisirs du jardinier, pour peu qu'il ait envie de manger de bonnes choses, mais c'est aussi donner, de façon un peu plus globale sur la planète, la liberté et la possibilité de liberté au peuple qui cultive la terre et dont la survie en dépend.
Pierre Feltz, jardinier conseil et maître composteur, est notre invité dans H2O en balade. On est ensemble jusqu'à 13h.
Découvrir
L'Auvergne.
H2O, partez en balade.
France Bleu M, Tips.
Il commence aujourd'hui. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, oh, on n'est pas bien là, à parler bien et de tout, à parler de lui et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, oh, oh, oh.
On n'est pas bien là, Tips, un coup de cœur France Bleu.
France Bleu Pays d'Auvergne a sélectionné pour vous
les prochains concerts à venir dans notre région. Il y aura Roland Magdan, noté à la Maison de la Culture juste à côté de la radio le 3 mars prochain. Ne manquez pas Émilie Jolie le même jour au Zénith d'Auvergne, grand spectacle d'Émilie Jolie. Il y aura Danse avec les Stars aussi, tournée nationale qui fera escale à Clermont au Zénith le 16 février. Puis dans l'immédiat, ce qui se prépare, là, c'est le 7 février, ce sera un mercredi au Zénith. Dirty Dancing, le spectacle Dirty Dancing. Vous retrouvez plus de renseignements et réservations sur le site arachne-concert.com. Et il y aura des places à gagner à l'écoute de France Bleu.
Les coups de cœur avec Volteo, votre spécialiste pile, batterie, accumulateur, avenue Ernest Cristal à Clermont-Ferrand et sur www.volteo-batterie.com.
Bon appétit, merci de choisir France Bleu, il est midi. À midi, voici les infos avec Jean-Pierre de Mangela. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Et retour à la terre pour le président de la République.
Oui, Emmanuel Macron a achevé hier soir la première partie de sa visite officielle dans notre région. Après une journée largement consacrée à l'agriculture, il a d'abord déjeuné au GAEC des Violettes à Orrières avant d'adresser ses vœux au monde agricole, au gymnase de Saint-Genès-Champanelle. Le chef de l'État souhaite transformer l'agriculture française avec un double objectif, payer les agriculteurs au juste prix et offrir une alimentation saine et durable aux consommateurs. Ce matin, place à la candidature de la chaîne des Puits et de la Faille de Limagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président s'est rendu à la maison du site au pied du Puy-de-Dôme avant de monter au sommet avec le train panoramique à midi et demi. Dominique Manon nous fera le compte-rendu de sa balade matinale.
Le Puy-de-Dôme qui a revêtu son manteau blanc pour accueillir le chef de l'État.
Oui, sept départements sont toujours placés en vigilance orange, neige et verglas. Parmi eux, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire. Le préfet du Cantal a d'ailleurs interdit les transports scolaires ainsi que les transport collectif sur l'ensemble du département jusqu'à maintenant, jusqu'à midi donc, hein, à l'exception de l'agglomération d'Aurillac et de la communauté de communes de la Châtaigneraie. En Haute-Loire, l'interdiction est valable toute la journée et d'autre part, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est interdite sur les nationales 88 et nationales 102 ainsi que l'autoroute A75 au sud de la région avec obligation là des équipements spéciaux pour tous les véhicules.
Mais moins de blocages dans les prisons ce matin.
Une soixantaine de prisons sont touchées, soit un tiers des établissements pénitentiaires. Hier, deux syndicats sur trois ont rejeté le projet d'accord présenté par la garde des Sceaux. Le syndicat UFAP-UNSA, majoritaire dans la profession, a constaté des avancées, mais consulte sa base avant de prendre position. Et c'est calme du côté de Moulins-Isère et de Rion pour le moment.
Le flop de Laurent Wauquiez.
Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne fait pas recette à la télé. Invité de l'émission politique de France 2 hier soir, il a réalisé le pire score d'audience de toute l'histoire de l'émission. 6,8% de part d'audience, c'est moins d'1,5 million de téléspectateurs et moins bien que Marine Le Pen qui jusque-là détenait ce plus mauvais score d'audience.
En parlant de score, il y a du sport ce soir, Jean-Pierre.
Oui, du football en championnat de Ligue 2, Clermont reçoit Quevilly. En rugby pro, Aurillac se déplace à Colomiers et en basket pro, B, Vichy, Clermont Métropole se rend à Rouen avec un objectif, regagner enfin un match puisque la Jave reste sur deux défaites consécutives. On se retrouve à midi et demi. Et cette météo, vous nous confirmez qu'il y a de la neige en altitude.
Oui, il y a de la neige en altitude aujourd'hui, même à sa basse altitude pour aujourd'hui, avec retour de ce temps hivernal sur la région. Un ciel bien gris, vous l'avez remarqué ce matin, c'est un petit peu tristouné, c'est vrai. Il fait surtout beaucoup plus frais sur la région, avec des températures qui, cet après-midi, ne dépasseront pas les 7 à 8 degrés. On aura 8 à Rion, 7 à Clermont, 7 pour Thiers, 5 degrés au meilleur de la journée pour Aurillac. Ça s'est drôlement rafraîchi comparé à ces derniers jours. 6 à Brioude et Amber, on aura 8 à Saint-Pourçain et 9 à Montluçon. De la neige avec une limite pluie-neige qui va remonter vers 700-800 mètres dans la journée. Quelques éclaircies, ça va concerner le Bourbonnais cet après-midi. Un petit vent qui reste faible cet après-midi, secteur nord-nord-ouest. On aura demain une journée un petit peu plus ensoleillée, nous dit Météo France, avec un froid de saison, certes, mais une journée au sec. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On va profiter ensuite de conditions anticycloniques dès dimanche et jusqu'à mardi avec le retour de la douceur.
La météo avec Murprotec Auvergne, solution définitive et garantie contre l'humidité, diagnostic offert
experts sur murprotec.fr.
12h03, la route, on l'a fait ensemble sur France Bleu. Vos appels, c'est au 04 73 34 3000 avec des conditions de circulation qui sont relativement bonnes. Pour l'instant, on a noté un véhicule en panne pour vous qui êtes sur l'A89. Le sens Lyon-Bordeaux, sens Est-Ouest à hauteur de Saint-Our dans le Puy-Dôme. Véhicule en panne qui perturbe un petit peu votre circulation. Dans le centre-ville de Clermont, trafic fluide. Notez simplement cet accident pour vous qui êtes sur le boulevard Jean-Baptiste Dumas. On est donc à l'est de Clermont. Accident qui là engendre un petit bouchon. Conditions de circulation un petit peu difficiles dans le coin. Si vous avez plus de précision, vous êtes prioritaire, bien sûr, 04 73 34 3000. Bonne route.
Respirer. Apprendre. S'évader. Découvrir. H2O, on balade.
Et on salue notre amie Valérie. Valérie
Bonjour
Coucheux,
Valérie.
Qui est désormais aux commandes du vaisseau d'H2O en balade. Et sur les routes d'H2O en balade, il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas d'accident.
Tout va bien.
Tout cela est très pacifique. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Fels, qui est jardinier conseil, formateur et maître composteur. On va dans quelques instants lui demander ce que c'est qu'un maître composteur. À 1h20, les rendez-vous nature, 1h10, cinquième et dernier épisode de notre reportage Le silence des oiseaux, en compagnie de Jean-Christophe Gigot de la Ligue pour la protection des oiseaux.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne. H2O.
Alors Pierre Fels, depuis 2010, vous avez décidé de créer votre emploi, de créer votre activité professionnelle à travers la fonction de jardinier conseil, mais aussi jardinier formateur, mais aussi maître composteur. Alors c'est quoi un maître composteur ?
Alors quand j'entends maître composteur, moi je me dis mais un maître du compost, c'est quelqu'un qui règne sur une montagne de déchets, non ? C'est pas ça en somme.
On sent l'influence des mangas là quand même, hein, vous remarquerez quand même.
Le maître composteur, c'est un nouveau métier en fait, hein, qui est apparu en France dans les années justement 2010 et qui part d'un constat de notre société qui est qu'aujourd'hui on a beaucoup de déchets, on produit beaucoup de déchets, ça on le sait, et dans ces déchets il y a une part très importante de déchets organiques, ce qu'on appelle officiellement les biodéchets. Donc ce sont les déchets qui sont les déchets alimentaires, et il y a aussi tous les déchets de parcs et jardins, les tontes, les branches, etc. Et ces déchets sont comme tout déchet, c'est forcément coûteux à traiter parce qu'il faut les collecter, il faut les transporter, il faut les traiter dans des unités de traitement, quelles qu'elles soient, des plateformes de compostage.
Et ça coûte très cher.
Ça coûte cher, bien sûr, pour tout le monde, pour la collectivité, ça coûte cher pour chacun d'entre nous, et puis ça a un coût environnemental aussi important. Les biodéchets dans nos ordures ménagères, c'est 30%.
Mais c'est pas mal.
Voilà. Et quand on regarde bien cette part-là de déchets, on se rend compte que c'est la seule qui est facilement transformable au pied du producteur. On aura beau trier le verre, trier le papier, il sera quand même collecté, transporté. C'est déjà un beau geste de faire le tri, bien sûr. Mais les biodéchets, eux, ils peuvent se transformer naturellement. Hein, c'est ce qu'on appelle le compost, que tous les jardiniers connaissent. Il y a une petite recette à avoir, c'est pas très compliqué, mais on peut transformer cette matière. Depuis une vingtaine d'années, bien 20 ans maintenant, les collectivités, donc quand je pense aux collectivités qui ont la compétence déchets, les SICTOM, VALTOM, etc., sur notre territoire, ont lancé des campagnes de distribution de compost de jardin. Ça, on connaît tous ce que c'est qu'un composteur de jardin. Quand on a une maison et un petit espace pour pouvoir composter dans nos bacs en plastique ou en bois. Mais depuis justement les années 2008-2010 en France, ça fait vraiment 10 ans, pas plus, on s'est intéressé au compostage dans une autre mesure, c'est-à-dire à composter tout ce qu'on peut composter, même dans les grandes structures, les grandes infrastructures comme un établissement de santé, un établissement éducatif comme collège, lycée, etc. Ou même dans les villes, au pied des immeubles par exemple. Et donc on a dû adapter les façons de faire, on a dû chercher, on a dû trouver des gens qui accompagnaient ces projets, c'est-à-dire qui ont une compétence technique, qui sont capables de former, d'informer les gens.
Et mais parce que ça ne s'improvise pas un compost, comprendre comment ça fonctionne.
Il faut comprendre comment ça fonctionne. Alors bien sûr qu'il y a l'aspect technique qui est important, mais il y a aussi tout ce qui est accompagnement de ce projet, c'est-à-dire comment fédérer par exemple des habitants d'un quartier pour avoir un lieu de compostage en commun, comment on va organiser le travail. Mais ça peut être aussi comment dans un hôpital, par exemple, on va mettre en place tout le système de tri dans un hôpital qui, par exemple, sert 5 ou 600 repas jour, tout le système de tri au niveau des services, on va récolter les déchets alimentaires non consommés, et puis comment on va amener ça sur des unités de compostage au pied de l'établissement ou à proximité, pour les composter. Et on peut être sur des quantités très importantes qui vont de quelques centaines de kilos sur des petites unités jusqu'à plusieurs dizaines de tonnes. Aujourd'hui, on a en Auvergne des structures qui composent 30 tonnes de déchets alimentaires dans leur établissement, et ce sont ces 30 tonnes qui ne sont pas traitées, transportées ailleurs, vous l'avez compris.
Voilà. Oui, absolument, on valorise les déchets en clair.
On est vraiment dans cette loi universelle du rien ne se perd, tout se transforme, c'est-à-dire qu'on va transformer ces déchets pour en faire un substrat, en quelque sorte. On est un peu dans l'image du cycle de vie.
Exactement. Alors, c'est vrai que l'entrée, on est arrivé à ce compostage en grande capacité pour réduire les déchets. Mais il est évident qu'il y a une vertu à ça, c'est qu'effectivement toute cette matière organique, elle revient au sol là où elle a été consommée.
Est-ce que ça veut dire que le plus dur finalement, c'est de faire comprendre au grand public que ce qui est un déchet à la base devient finalement une valeur ajoutée ensuite?
Eh bien, en tout cas,
le statut déchet, ça nuit parfois au compost.
Oui, bien sûr. Par exemple, on parle beaucoup des déchets verts dans nos métiers. On apprend à ne plus parler de déchets verts. Ce fameux déchet vert, ces branches que l'on peut broyer, ces tontes que l'on peut conserver, composter ou utiliser en paillage. Pour nous, enfin maintenant, on souhaite que ça devienne une ressource. On considère que c'est une véritable ressource.
Une vraie ressource. Oui, on a envie de hisser le drapeau blanc pour dire non, je t'ai plus. Et drapeau blanc, ça tombe bien, c'est White Flag de Didon qu'on va retrouver.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne. H2O. Sense in that.
and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
S'évader.
Vous partez en balade? H2O.
H2O en balade, aujourd'hui jusqu'à 12h30 avec Pierre Fess, il est jardinier conseil et maître composteur, donc on parle du compost si vous nous prenez en cours de route. Je me demandais, Pierre, est-ce que ce qu'on peut qualifier comme étant le compost de compostage de proximité connaît un engouement peut-être plus vif, un nouvel essor depuis quelque temps?
Oui, exactement. Donc c'est ce que c'est ce qu'on a évoqué un peu tout à l'heure. Depuis les années 2008-2010 en France, on voit vraiment à l'initiative des collectivités qui ont la compétence déchets, mais aussi du monde associatif dans une certaine mesure, on voit vraiment se développer ces projets. Et ça a pris une ampleur considérable. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas un lieu, une ville en France où on ne développe ces questions de compostage. Je parle bien là d'autres choses que le compostage de jardin, qui a toute son importance, qui en fait partie. Mais là, je parle de ce nouveau mouvement du compostage en grand, dans les villes, dans les villages, le compostage qu'on partage dans les quartiers ou dans les établissements.
Mais il faut peut-être qu'on brise quelques idées reçues justement sur le compostage, parce qu'il y en a peut-être qui disent, oui, mais alors, parce qu'on ne maîtrise pas tous forcément le compostage, on l'a dit, ça ne s'improvise pas, il y en a peut-être qui disent, ça sent mauvais le compostage, ça attire les animaux, pas forcément.
Pas du tout. Quand il est bien fait, pas du tout.
Savoir qu'un composteur bien fait doit attirer des animaux, mais ça se voit pas forcément.
Alors oui, c'est bien qu'il attire des petits animaux qui participent à la dégradation de la matière organique. Et effectivement, on est là aussi pour accompagner, former au bon savoir-faire, à la bonne recette du compost. Mais on peut aujourd'hui composter, ce qu'on évoquait tout à l'heure, dans un établissement qui fait de la cuisine collective, des restes de nourriture, à condition de bien le mélanger, évidemment, avec des matières qui vont structurer, donc en particulier du broyat, des branches broyées, mais on obtient un compost de très très bonne qualité.
Et croyez-moi Mathieu, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte dans le jardin de Pierre Fels qui compte plusieurs composteurs, parce qu'il y a aussi plusieurs manières de conduire un compost, ça ne sent jamais mauvais, au contraire, c'est plutôt une bonne odeur de terre, d'humus, de forêt aussi pour certains composts, suivant ce qu'on met dedans. Pierre, quand on parle donc de cet engouement là dont vous nous parlez, est-ce que c'est dû au fait qu'il y a une prise de conscience, c'est qu'on se dit, bon, faut peut-être arrêter nos bêtises, ou est-ce que c'est en lien avec des décisions, la législation qui évolue aussi?
Il y a les deux, et effectivement, il y a la société qui évolue de plus en plus vers ses façons de faire par rapport aux préoccupations environnementales, et puis il y a une réglementation qui est arrivée sur, justement, la question des traitements des biodéchets. Il faut savoir que je vais prendre une seule date, mais qui est importante, c'est qu'en 2025, on ne devra plus trouver dans les ordures ménagères de déchets organiques. En 2025. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent pour l'illustrer, on ne devra plus trouver une peau de banane dans un sac plastique en 2025. Les collectivités, les citoyens, les établissements doivent trouver une façon de trier ces déchets qui sont valorisables très facilement, pas forcément par le compostage d'ailleurs, mais qu'on peut valoriser sous plein de formes différentes. On ne devra plus les trouver dans les ordures ménagères. Donc il y a un gros chantier en cours, et aujourd'hui c'est ce à quoi travaillent les collectivités et les citoyens en général.
Vous savez que vous en surprenez plus d'un en disant ça là tout de suite, hein, parce que je suis convaincu que peu de foyers sont conscients qu'effectivement en 2025 on ne devra plus trouver dans les poubelles de déchets organiques.
Oui, bien sûr, mais à la fois c'est un peu loin, mais à la fois c'est pas si loin que ça pour que tout puisse se mettre en route. Après, il faut aussi bien comprendre qu'aujourd'hui, pour beaucoup de foyers, ils n'ont pas la possibilité de faire autrement. On habite dans un appartement, s'il n'y a pas de mise en place de compost au pied de...
Il faut des structures ad hoc.
Il faut des structures adaptées, et c'est pour ça que les collectivités y travaillent, les associations de citoyens y travaillent. Et il y a un élément que je ne voudrais pas oublier, c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, travailler sur la transformation de ces déchets, c'est important, mais l'idéal, c'est de moins en produire. Et donc, il y a un élément qui est très important aussi, qui arrive de façon très forte, c'est tout ce qui est lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on a des programmes qui sont mis en place, on a des professionnels qui accompagnent ces projets pour que ce soit chez nous, particuliers, ou dans les établissements, dans les cuisines collectives, on parlait des hôpitaux, on parle des maisons de retraite, on travaille de plus en plus pour éviter le gaspillage alimentaire.
Alors, Pierre Fels, en ma qualité d'apprenti composteur, si je peux dire ça comme ça.
Ça vous va bien.
Oui. Si je veux faire mon compost... Il y a peut-être des petites choses lesquelles il ne faut pas mettre ou justement qu'il faut mettre. Si je comprends bien, est-ce que je peux avoir seulement une poubelle jaune avec des ordures recyclables et puis en fait mettre tout le reste dans mon compost? Si je schématise un petit peu, ça se passe comme ça?
Alors, dans le compost, on va mettre tout ce qui est organique. C'est-à-dire tout ce qui est dans organique, on entend organe, tout ce qui à un moment donné était un organe vivant, végétal ou animal. Donc tout ce qui pourrait se dégrader naturellement dans la nature. On prend un objet, on le pose dans une forêt, et on se projette dans 3, 4, 5, 10 ans. Si on s'imagine que cette matière-là se dégrade dans la forêt, sous l'effet des intempéries, des petites bêtes qui viennent le grignoter, c'est un élément biodégradable. C'est la feuille de salade, c'est l'épluchure d'orange, mais c'est aussi le morceau de viande, les pâtes qui sont cuites, ou l'huile. Tout ça, c'est de la matière qui est dégradable et qui se composte.
Et c'est là qu'on se rend compte que ça représente un volume considérable, justement.
Oui, c'est un volume considérable. Ce qu'on disait à peu près dans la poubelle du ménagère, c'est 30 à 40%.
Nous accueillons dans cette émission Pierre Feltz, jardinier conseil et maître composteur, l'un des premiers maîtres composteurs de la région Auvergne d'ailleurs. Pierre, vous travaillez avec une quarantaine de projets auprès de collectivités locales. Et vous avez monté aussi la structure Alteridée, hein, qui propose des composteurs grande capacité pour les établissements divers et variés, institutions, communes, quartiers. On vous a demandé, comme à chacun de nos invités, de nous indiquer une personne que vous souhaiteriez qu'on contacte. Je crois qu'on va aller du côté d'Issoire. Qui avez-vous choisi ?
Oui, j'ai choisi la ressourcerie du Pays d'Issoire, parce que ce que conduisent Guillaume et Louise, je trouvais c'est quelque chose de vraiment intéressant. C'est un beau projet qui a été construit avec beaucoup de partenariats. C'est un projet auquel ils croient et qui n'existait pas sur le Pays d'Issoire et qui fonctionne bien. C'était juste pour leur donner un petit coup de projecteur.
Bien, on va les retrouver juste après ceci.
Qui je suis ? Je suis une petite souris qui dévore les archives, celles des prisons puis d'Aumoise.
Souris et scélérats.
Nous allons voyager à travers les siècles et l'histoire fluctuante des forfaits qui mènent à la case prison. Histoire du droit, histoire de la société auvergnate.
Souris et scélérats sur France Bleu Pays d'Auvergne avec Carole Mastroianni le samedi à 6h20 et le dimanche à 7h20.
Découvrez la résidence service senior Domitis, le Castel du Val à Pérignat. Domitis propose un habitat de qualité avec service à la carte, animation, équipe disponible 24 heures sur 24. Venez nous rencontrer lors de notre journée découverte le 26 janvier de 10h à 18h au 42 Allée de Bonneval à Pérignat. Information sur domitis.fr.
L'Auvergne.
Oh, l'Auvergne, c'est une merveille.
L'Auvergne.
La route des châteaux.
L'Auvergne.
Le chou farci.
Et France Bleu, pays d'Auvergne.
Flâner, H2O vous emmène en balade.
H2O en balade avec notre invité aujourd'hui, c'est Pierre Feltz, il est jardinier conseil et maître composteur. Et Christophe, on est dans cette philosophie du compost, c'est-à-dire du réemploi, du recyclage. Et on va partir découvrir tout de suite une ressourcerie.
Et oui, n'en jetez plus, la terre est pleine, on pourrait dire. Et on va accueillir Louise, qui est le choix pour l'interview ricochée de notre invité, Pierre Feltz. Louise, bonjour.
Bonjour.
Louise Benoît, à Issoire, vous avez, avec Guillaume, monté la ressourcerie d'Issoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui a été l'énergie qui a présidé au choix de cette structure, de cette création de ressourcerie ?
Alors, à l'origine, c'était une certaine indignation devant la quantité de déchets qu'on peut trouver à la fois en déchetterie, quand on va apporter quelque chose, on voit encore des choses en bon état, ou dans la rue, parfois, les soirs de collecte d'encombrants, on voit des objets qui sont encore en parfait état, qui sont jetés. Et donc, en voyant toutes ces poubelles de notre société de consommation, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et à partir de là, on a fait du bénévolat à la fois dans des Emmaüs et également dans des structures de ressourcerie. Et on s'est décidé à ouvrir nous-mêmes une structure de ce type-là.
Et la ressourcerie récupère des choses parfois toutes neuves ?
Alors parfois on a des choses neuves, on a parfois aussi des choses en très mauvais état, on récupère vraiment absolument tout, et ensuite c'est à nous de faire le tri entre ce qui peut être réparé, ce qui peut pas être réparé avec nos partenaires de recyclage pour être recyclé, et tout le reste termine en boutique pour connaître une seconde vie.
Il n'y a pas de but lucratif d'ailleurs dans une ressourcerie, c'est un côté totalement équitable, hein.
Alors en fait, on peut choisir un peu la forme qu'on souhaite juridique. Et je parle, nous, on a vraiment choisi de faire une association parce qu'on voulait que le projet soit collectif et on avait vraiment cette volonté de but non lucratif. Donc tout ce qui est vendu en boutique, tout l'argent qu'on récupère, il sert à financer à la fois le loyer, l'essence de notre véhicule de collecte et également les salaires parce qu'on a aussi un but de créer de l'emploi et aussi des missions d'insertion.
Voilà, des objets uniques à prix écologique à découvrir à la ressourcerie du Pays d'Issoire. Un lieu de rencontre et d'échange, j'imagine aussi, c'est un peu la philosophie des ressourceries.
C'est la philosophie. dit, et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on rencontre des gens très différents entre les bénévoles qui viennent s'impliquer, nos salariés, on a aussi des stagiaires ou des gens parfois qui sont un peu éloignés de l'emploi, et puis les personnes qui viennent acheter ou qui viennent donner. Et ça fait tout ça un certain mélange, des personnes de tout âge, avec des parcours de vie assez différents, et c'est très très riche.
Vous savez quoi, Louise, on est un petit peu frustrés de ne vous consacrer que 2 minutes 30 dans cette émission. Moi, je souhaiterais qu'on en parle plus amplement de cette ressourcerie à Issoire. Vous seriez d'accord pour venir dans cette émission en tant qu'invité principal ?
Eh bien, avec plaisir.
Allez, le rendez-vous est pris, on vous appelle très vite et on prend rendez-vous. À bientôt, Louise.
Merci à vous.
Merci à vous. Je rappelle que la ressourcerie du Pays d'Issoire est située au 14 impasse Latécoère, dans la zone artisanale de la Maze à Issoire, et qu'il y a un site internet ressourcerie-issoire.fr. On sent une démarche tout à fait cohérente hein, à travers les propos de Louise. Les propos sont structurés, elle sait où elle va. C'est un peu aussi ce qui ressort de vos propos, Pierre. Aujourd'hui, le fait d'être maître composteur, de rencontrer des gens, de former, d'être un passeur, c'est ce que vous êtes en quelque sorte, pour que les méthodes de jardinage évoluent dans le respect de la nature et de la biodiversité. Ça doit être un moteur fabuleux, ça doit être quelque chose d'extraordinaire à vivre au quotidien.
Ben oui. Oui, non, c'est difficile d'en dire beaucoup. C'est un moteur, c'est très stimulant. Et puis, comme on est sur un mouvement, c'est quelque chose qui permet d'avancer. On est sur de l'innovation, on fait des choses nouvelles souvent. Donc, c'est un peu inépuisable. Et c'est aussi un métier de rencontre, de construction de projets. Donc oui, c'est satisfaisant, bien sûr.
Et si je veux aussi, moi, par exemple, transmettre ce savoir, je peux me former à être maître composteur?
Alors bien sûr, aujourd'hui c'est une formation officielle qui est labellisée par l'ADEME, maître composteur. Alors il y a une autre formation qui s'appelle guide composteur qui se fait en 3 jours. Maître composteur, c'est 12 jours de formation avec un mémoire professionnel à présenter. Aujourd'hui il y a plusieurs organismes en France qui proposent la formation de maître composteur, dont mon organisme en Auvergne. On peut se former maître composteur, bien sûr, oui tout à fait, pour acquérir une compétence technique mais aussi une compétence dans la conduite, dans l'accompagnement de ces projets, c'est-à-dire comment on travaille avec les gens, comment on tient compte de la réglementation, des aspects hygiène, sécurité. C'est tout ça qu'on met en place quand on est maître composteur et qu'on doit apprendre lors d'une formation.
Et on rappelle, Pierre, qu'effectivement, le compost, ça n'est plus réservé au fond du jardin d'un particulier. C'est aussi à l'échelle de collectivités ou bien de lieux de vie comme des quartiers, des communes, des établissements. Et c'est dans le prolongement de cette idée-là que vous avez créé donc Alter Idée. En quelques mots, Alter Idée, c'est quoi ?
Alors, en quelques mots, Alter Idée, donc avec la terre comme la terre justement. C'est une société que j'ai créée avec Charles Brault. L'idée c'était de répondre à un besoin local de composteurs grande capacité, c'est-à-dire des composteurs qui font plusieurs mètres cubes, qui permettent justement d'installer des bacs dans des villages, dans des quartiers ou dans des établissements de restauration collective, mais avec du bois non traité, ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur le marché, et surtout du bois local. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans une idée d'économie circulaire, de produire quelque chose de local, avec un collègue qui fabrique, un menuisier qui fabrique les composteurs localement. Il est basé sur Enza, et voilà, et donc avec du bois, du
sur l'idée des circuits courts, pas de traitement.
Exactement, voilà.
Et avec des composteurs de grande capacité.
Ces composteurs sont utilisés, c'est souvent les collectivités qui viennent nous voir pour les installer, et on les aide dans ça.
C'est déjà la fin de cette émission, on l'a pas vu passer une fois de plus. Pierre Fels, merci d'être venu dans notre émission, et puis vous serez le bienvenu quand vous le souhaitez, si vous avez des choses à nous dire ou à partager dans H2O en balade. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus, il existe un site internet, hein, Pierre Fels. Alors Fels, c'est F-E-L-T-Z, pierrefels.org. On met tout cela, bien évidemment, sur francebleu.fr. Merci Pierre d'être venu et à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.